I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Comment regretter la décision de la Cour suprême des États-Unis et dans le même temps trouver ridicule qu'elle puisse influencer la France? Comment redire que l'interruption volontaire de grossesse est un droit pour les femmes, mais qu'il n'est pas essentiel que cette loi soit inscrite dans la Constitution sans être soupçonnée de vouloir un jour revenir sur cette liberté fondamentale sans être taxé d'anti-IVG? Est-il possible d'expliquer sereinement que les trois juges nommés par Donald Trump à la Cour suprême ne mettent pas en danger la société française? Est-il possible de ne pas réagir sous le coup de l'émotion? Est-il possible d'arrêter de dire n'importe quoi? De rappeler que la France n'est pas l'Amérique? De souligner que personne ou quasiment personne ne remet en cause ici la loi Veil? Chaque jour, la France des nuances, la France de l'intelligence, la France du bon sens perd un peu de terrain. Comme disait je ne sais plus qui, nous sommes au bord du gouffre et nous allons faire un grand pas en avant. Il est 9h, Audrey Berthoud.
Grève nationale des routiers aujourd'hui. Ils réclament une hausse des salaires et appellent à bloquer les zones industrielles dans toute la France. Une vingtaine de gros sites sont concernés selon les syndicats. D'autres pourraient être ciblés à la dernière minute. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat se précise. Plusieurs prestations sociales devraient être augmentées de 4%. Parmi elles, les pensions de retraite, les prestations familiales ou encore le RSA. Cela devrait coûter 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023. Enfin, au procès des attentats du 13 novembre, les 14 accusés pourront s'exprimer une dernière fois aujourd'hui devant la Cour, avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer 2 jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance.
Elisabeth Lévy, Gérard Leclerc, Philippe Bilger et Robert Sebag sont là. On va parler de l'IVG dans une seconde. Simplement, une photo qui m'a intéressé aujourd'hui, parce qu'il y a quand même du travail encore à faire pour la répartition entre le travail et les hommes et les femmes dans le monde entier. Une photo que vous allez voir, c'est les dirigeants des pays du G7 qui étaient réunis hier au sein du château d'Elmo dans les montagnes du sud de l'Allemagne. Donc vous avez Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Olaf Scholz, Boris Johnson, Mario Draghi, Fumio Kishida. Donc ça, c'est les hommes. Ils ont mis en place donc une belle photo. Il y a que des hommes, d'ailleurs. Il y a Ursula von der Leyen qui est là, parce qu'elle est présidente de la Commission, que des hommes pour diriger les pays des G7. Donc ils ont mis en place cette photo et puis ils ont mis en place la photo des femmes à côté. Et moi, si j'étais une femme, je refuserais de faire la photo, parce que les femmes, voilà. Donc, voilà les femmes, donc elles sont... l'image des femmes qui est donnée. Alors, c'est Thomas Vider, qui est un journaliste, qui a mis ce petit tweet. C'est lui à qui revient « Les hommes travaillent, les femmes se divertissent ». Voilà.
Mais quel joli monde, moi ça me va très bien, je veux bien aller me divertir.
Est-ce qu'il y a M. von der Leyen ?
Non, d'ailleurs, M. von der Leyen, je ne pense pas qu'il soit là. Donc, alors, mais c'est vrai que ça, c'est
la... des enfants.
Pascal, vous avez des problèmes de sommeil ? Vous comptez les femmes pour vous endormir ?
J'ai aucun problème de sommeil. Je constate simplement que les 7 hommes qui dirigent, les 7 personnes qui dirigent le monde sont 7 hommes. C'est tout. Voilà. C'est factuel, ça. Il n'y a pas un homme qui dirige. Je veux bien qu'on m'explique les hommes, les femmes, etc. C'est des hommes qui dirigent le monde, que je sache.
Personnellement, je peux me sentir beaucoup mieux représenté par un homme que par certaines femmes.
Et ils sont moqués de Poutine, en plus.
Bon. L'IVG. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est terrible parce qu'on est presque soupçonné d'être anti-IVG si on dit « mais ça n'a rien à faire dans la Constitution française ».
C'est même grotesque.
Mais moi, ça m'énerve un peu.
Mais votre édito était parfait, Pascal.
Non, mais,
depuis l'approche des vacances, ils deviennent de plus en plus nuancés et remarquables.
Bien sûr, c'est... vous pouvez redire
remarquable.
Je crois qu'on va vous laisser. Mais
vous reviendrez l'année prochaine. Cher Philippe, il n'y a pas de souci. Vous avez toute votre place.
Quand on dit le pire, on a le droit de dire le meilleur, parfois.
C'est vrai que c'est bon. Alors, écoutons en revanche quelques réactions aux États-Unis, parce qu'on va parler d'abord... des militants aussi, mais monsieur et madame tout le monde, sur ce retour effectivement vers le futur qui peut inquiéter la société américaine, qui est fracturée, pas comme la nôtre, heureusement, de ce point de vue-là. Écoutez quelques témoignages.
Nous venons ici parce que je crois que c'est le point zéro. Des bébés sont assassinés ici. Je sais que des gens vont se rassembler ici tous les jours. Ceux qui soit ne connaissent pas Dieu, soit le détestent. En tout cas, l'un des deux. Nous devons travailler dans des états comme New York, le Colorado, le Nouveau-Mexique. Ces endroits qui ont des lois vraiment libérales sur l'avortement en Californie.
Étant dans le sud, j'ai l'habitude d'être un peu dépassée par les opinions progressistes. Cependant, je ne suis pas découragée d'être seule ici en ce moment. Nous nous battons pour les droits de l'homme et cela concerne tout le monde.
Il y a peut-être 20 ans, j'ai 53 ans maintenant, mais j'avais une petite amie et vous savez, elle est tombée enceinte deux fois et j'ai payé deux avortements parce que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour avoir un enfant. Et depuis, j'ai été bénie. Dieu n'a pas retenu ça contre moi. Je suis membre de l'Église maintenant et je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ce que l'Église dit. Vous savez, parce que c'est la politique et l'Église. Mais je sais pertinemment que Dieu ne m'en a pas tenu rigueur.
Robert Sebag, vous êtes un enfant de 68 et comment le médecin que vous êtes réagit-il ?
Il n'y a aucun parti, enfin ça c'est le citoyen qui va répondre d'abord, ouais. Il n'y a aucun parti politique qui a réclamé ce genre de choses. Donc dès que les États-Unis, il faut absolument répondre, ça c'est le premier point.
Pas quand c'est le wokisme.
Voilà. Le deuxième point, ça ne me paraît réellement pas une urgence. Moi, l'urgence aujourd'hui, c'est effectivement l'hôpital. On pourra parler de la Covid, mais au-delà de la Covid, si vous voulez, on a un ministre de la Santé qui est démissionnaire par définition. Il y a un cabinet qui va disparaître. Il y a eu des groupes de travail. On attend cette fameuse mission flash sur l'hôpital. Ça, c'est une urgence. L'urgence, c'est pas aujourd'hui de réunir le Sénat, l'Assemblée nationale, un référendum. Franchement,
qu'est-ce que ça change la Constitution ? Qu'est-ce que ça change que
nous la Constitution ? Non, mais c'est
beaucoup plus compliqué d'ensuite.
Mais c'est une façon de le graver dans le marbre.
C'est gravé dans le marbre. Mais quand c'est dans la Constitution, ça devient très compliqué de modifier la Constitution. Pardon, excusez-moi.
Il n'empêche
que... Vous venez de compter les femmes, alors vous allez me laisser en placer.
Oui, oh là là, ça, j'ai...
Là-dessus,
j'ai pas de inquiétude.
Bon, vous allez en placer une juste après la représentante qui s'exprime des États-Unis et des représentantes démocrates. Écoutez-les.
Cela fait partie de la vision sombre du Parti républicain pour l'Amérique. Ils veulent revenir sur tous les droits possibles qui ont été acquis au fil des décennies.
Je m'inquiète absolument pour le mariage homosexuel. Je m'inquiète de la surveillance de tous les projets de loi liés au sexe en général.
Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous n'allons pas être traités comme des citoyens de seconde classe et nous n'allons pas être traités comme des biens.
Elisabeth Lévy.
Alors d'abord, je constate qu'effectivement, ça, ce que vous avez dit est parfaitement vrai, mais ce qui m'intéresse sur les États-Unis, c'est que d'un côté, on a des gens qui nous disent que la nature n'est plus rien. Homme, femme, vous pouvez être ce que vous voulez. Demain, vous pouvez être une femme si vous voulez, Pascal. Et de l'autre côté, on a des gens qui nous disent que la nature est tout. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que je pense que ça n'est pas complètement sans lien. Il y a un effet backlash là-dedans. C'est-à-dire que je pense que les deux, le politiquement correct progressiste complètement dingue et... la réaction trumpienne, on appelle ça comme vous voulez, la réaction de la Bible Belt, s'alimente mutuellement. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera, mais Darwin est attaqué des deux côtés aujourd'hui. Il est attaqué par des progressistes et il est attaqué par des réactionnaires. Donc c'est bon. Pardon ?
Non, mais je dis bon déjà, parce que
la
je
deuxième
vous
question
en
que je voudrais
oui.
soumettre...
Oui, mais c'est
votre...
long, parce que déjà, la première,
mais
rien
je soumets une question à votre oui. sagacité à tous. Oui. C'est que... J'aimerais qu'on s'interroge, et attention, moi je suis très favorable au droit à l'IVG, mais j'aimerais qu'on s'interroge sur le fait que, je me rappelle ce que dit Simone Veil, en 40 ans, la contraception, l'accès à la contraception aurait dû réduire l'urgence, si vous voulez, le caractère impérieux de l'IVG, non pas le supprimer, mais aurait dû faire baisser le recours. Or, c'est pas du tout le cas, je me pose la question. Et le reste, je vous le dirai plus tard.
Alors, peut-être peut-on voir les pros contre les contres avec le sujet de Marie Conant aux États-Unis.
Des pro-avortements contre des anti-avortements qui manifestent devant la Cour suprême des États-Unis. C'est le nouveau visage d'un pays aujourd'hui plus que divisé. Car désormais, chaque État est libre d'interdire ou non l'IVG. Le procureur général du Missouri avait annoncé ce vendredi que son État serait le premier à bannir l'avortement.
En tant que défenseur de longue date des droits des enfants à naître et des familles du Missouri, je m'engage à continuer à me battre pour notre droit le plus fondamental, le droit à la vie.
Comme le Missouri, au moins 7 États, presque tous situés dans le Sud, ont déjà interdit le recours à l'IVG. Parmi eux, l'Alabama, l'Arkansas ou encore la Louisiane. Au total, une dizaine prévoit de le faire. Le président Joe Biden a lui qualifié d'erreur tragique la décision des juges.
La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines qui bénéficiaient de ce droit.
Un juge de la Cour suprême veut même aller plus loin en revoyant le droit à la contraception et au mariage pour tous pour éventuellement les annuler comme l'IVG.
On retrouve quand même une fracture aux États-Unis qui existe aussi en France entre les gens qui vivent dans les villes, New York, qui sont des élites mondialisées, comme on dit, qui sont ouvertes, peut-être plus tolérantes, puis les gens qui vivent parfois, non pas dans les villes, mais ou à la périphérie, ou dans les provinces.
Les nowhere et les somewhere.
C'est vraiment une classification qui existe dans tous les pays occidentaux.
Sûrement. Mais moi, si ça ne concernait pas l'avortement, je trouverais cette démarche assez positive. Je ne vois pas au nom de quoi une pensée, une pratique conservatrice n'aurait pas le droit de revenir sur certaines avancées qualifiées de progressistes.
Vous avez une idée avant. Vous avez une idée? Par exemple, l'avortement, vous dites je ne suis pas favorable, mais est-ce que vous avez une idée de quelque chose de conservateur qui a disparu, que vous devriez voir
Alors, mon argument est discutable, Pascal, mais oui. Je penserais de l'autorité à l'école, par exemple. On répond très souvent en disant « c'est impossible de la faire revenir ».
Oui, mais c'est plus flou, l'autorité à l'école.
Il n'y a pas de loi pour l'abolir.
Il
n'y a pas de loi, il n'y a pas une loi pour l'abolir.
Il y a des pratiques qui
les
sont...
Le droit de vote pour les femmes, peut-être, c'est ça que vous vouliez remettre?
Non, pas ça. Pas ça. Pas plus que la peine de mort. Non, mais je pense qu'il y a...
Vous étiez pour la peine de mort ou contre?
Non, moi, j'étais contre. Mais pas à cause de l'humanisme foireux de certains, mais tout simplement parce que je considère que la peine de mort, pardon de dire ça, une sanction absolue aurait imposé une justice absolue. Même en étant enthousiaste sur la justice, en disant qu'il y a très peu d'erreurs judiciaires, je n'aurais pas été jusqu'à soutenir qu'elle était absolue.
Bon, en France, et c'est ça qui nous intéressait, ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Je vois tout le monde partir à 100 à l'heure. Je veux dire, tout ça devient grotesque aujourd'hui. Pour reprendre votre mot, voyez ce sujet avec François Bayrou, qui est monté au créneau pour effectivement dire que c'était assez ridicule et il n'a pas tort.
C'est une fracture dans la majorité. Le président du Modem, François Bayrou, s'oppose à l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça? Alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes.
Une proposition de loi défendue par les députés du groupe Renaissance et le gouvernement après la décision de la Cour suprême américaine d'abroger un arrêt garantissant le droit à l'IVG. Mais l'éphémère ministre de la Justice refuse de tenir les États-Unis comme boussole politique.
Moi, je ne suis pas dépendant des États-Unis. J'ai toujours, toute ma vie, plaidé pour que nous considérions qu'il y a une distance, que de notre société, notre civilisation même, on peut dire, n'est pas le décalque de ce qui se passe aux États-Unis.
Pour être adoptée, une révision constitutionnelle doit être approuvée par référendum ou récolter plus de 3/5 des votes parmi les parlementaires.
C'est intéressant ce qu'il dit François Bayrou, parce qu'une nouvelle fois, il y a la frontière générationnelle. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient d'une autre époque et qui a un peu, me semble-t-il, de hauteur de vue, en l'occurrence... Monsieur Bayrou, et puis vous avez cette jeune génération qui mélange tout parfois, qui dit n'importe quoi, qui est agaçante, disons-le, et qui souhaite en l'espèce mettre l'IVG dans le droit constitutionnel.
Oui, moi je suis assez partagé sur cette affaire. C'est vrai que la remise en cause de l'IVG, je trouve que c'est absolument effrayant. Quand on voit que certains États ont de nouveau interdit l'IVG, y compris... pour les incestes, y compris pour les enfants nés de viol. Je trouve ça tellement effroyable que effectivement, ça interpelle. Alors, je pense à l'inverse qu'il faut toucher le moins possible, le moins souvent, la Constitution. C'est le droit fondamental. Si on commence, parce qu'aujourd'hui, donc, on le demande pour l'IVG, mais en tirant un peu la corde, et ce ne serait pas illogique, on va dire, mais aussi pour le mariage homosexuel, mais aussi pour la contraception, mais aussi pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, C'est interpelle. Cela dit, s'il y a une majorité, et c'est là où, à la limite, je prends le raisonnement inverse de François Bayrou, si effectivement la grande majorité des parlementaires est pour, c'est donc dans ce cas-là, ça devient une sorte de consensus national. Eh bien, l'inquiétude est tellement grande chez un certain nombre de gens, et notamment chez les femmes. Et là, ce n'est pas uniquement générationnel, je ne crois pas. C'est justement, il y a d'ailleurs beaucoup de femmes à l'époque, dans les années 70, qui se sont battues pour l'IVG.
Personne ne le remet en cause en France.
C'est vrai. C'est pour ça que
ni Marine Le Pen, personne. Alors, pour le coup, il n'y a personne, sauf quelques...
Très rapidement.
Très vite.
Non, la question, c'est est-ce que certaines questions doivent échapper à la délibération démocratique. Vous avez cité le droit de vote. Oui, il me semble, si vous voulez, qu'on ne va plus voter pour savoir si on doit faire voter les femmes. Donc, il y en a. Mais est-ce qu'il faut faire échapper d'autres questions comme la peine de mort, comme l'IVG, comme des questions qui, à nous, nous semblent tout à fait fondamentales, mais est-ce qu'une majorité aurait le droit de les remettre en cause? C'est ça la question qui se pose.
Personne ne les remet en cause.
Théoriquement, il faut se poser la question.
Est-ce qu'il y a des questions
qui doivent totalement échapper à la discussion?
Audrey Berthaud est avec nous,
mais
on pourra mettre, c'est Florian Bachelier, que je salue d'ailleurs, qui a perdu son siège, mais qui était venu régulièrement nous voir, et il a raison de dire pourquoi pas la souffrance animale, pourquoi pas la légitime défense, à chaque drame on organisera le concours des souffrances et des émotions, c'est pure folie, nous dit-il. Il a raison.
Non mais là-dessus, je suis d'accord, j'essaie juste de poser la question au-delà.
On peut mettre la souffrance animale dans la Constitution. Vous voyez ce que je veux dire.
Mais ce n'est pas le principe de la Constitution.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Audrey Berthaud, s'il vous plaît.
Plusieurs associations se sont donné rendez-vous hier devant la mairie de Paris, principale cible de cette manifestation, Anne Hidalgo. Les personnes rassemblées protestaient entre autres contre le plan anti-crack de la maire de Paris qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale. Les associations réclament des solutions durables et demandent à la mairie d'arrêter de déplacer le problème. Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an. Le but, limiter l'impact de l'inflation sur les locataires. Une réunion de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires est prévue dans la semaine avec les associations de locataires. Et puis, ouverture du procès de Jean-Marc Reisser aujourd'hui. L'homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du Bas-Rhin pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Jean-Marc Reisser a toujours nié toute implication dans cette disparition. Il risque la prison à perpétuité.
On parlera tout à l'heure, on sera, je l'espère, avec Noémie Schulz. Sans transition, comme on dit, la variole du singe. Premier cas de variole du singe chez un enfant détecté en Île-de-France. Jusqu'alors, le virus n'avait touché que des adultes. L'élève de primaire a été pris en charge et ne présente aucun signe de gravité. L'ARS a indiqué que ses équipes et celles de Santé publique France ont immédiatement débuté les investigations afin de retracer au plus vite la chaîne de contact de l'enfant. Dernier bilan de Santé publique France établi à la date de jeudi faisant état de 330 cas confirmés d'infection en France. C'est pas rien. 330 cas. Si c'est très contagieux, c'est exponentiel.
Premièrement, c'est très contagieux, il n'y a pas de cas asymptomatiques. C'est la différence avec la Covid. C'est-à-dire que dès que vous avez un cas qui est effectivement détecté comme positif, vous l'isolez, vous vaccinez les personnes contact. Et vous limitez, si vous voulez, la diffusion.
Vous vaccinez les personnes contact,
Oui, les personnes contact qui sont proches. On a un vaccin aujourd'hui qui s'appelle Imavex, qui est un vaccin de troisième génération de la variole, et qu'on a déjà, donc qu'on a reçu, les autorités françaises en ont acheté. Et on vaccine, oui, effectivement, les personnes contact.
C'est le même vaccin que nous avions quand nous étions enfants.
Il est un peu moins perturbateur, parce que c'était le cas. C'est un vaccin de troisième génération qu'on a. Il faut rappeler que toutes les personnes qui sont nées avant 79-80, quand on a déclaré l'éradication de la maladie, sont protégées.
Vous êtes sûr de ça ?
Ah oui, je suis sûr de ça. C'est mon cas. C'est peut-être votre cas. Je ne connais pas votre âge.
Ah bah bien sûr. Bah,
voilà,
vous devinez mon âge.
Vous avez été vacciné.
On a été vacciné enfant contre la variole. Oui. On avait d'ailleurs à chaque fois une sorte de tache qu'on nous mettait.
Votre traumatisme d'enfance.
Donc vous êtes immunisé. Par contre, les personnes beaucoup plus jeunes ne le sont pas.
C'est-à-dire que dans les 330 personnes, aucune personne n'était vaccinée enfant contre la variole.
Pour la plupart, oui.
C'est que des jeunes.
J'en ai vu encore.
Vous êtes sûr ?
C'est important, ça.
Oui, oui.
Ça rassure les gens. Au moins, on a des nouvelles rassurantes.
Alors, cueillez des enfants.
Si vous avez plus de 55 ans, cueillez
des enfants qui ont été en contact avec des personnes, effectivement, qui avaient cette maladie. Oui. C'est pas surprenant. C'est une maladie qu'on connaît bien en Afrique. La surprise, c'est que ce virus soit arrivé en Occident, si vous voulez. En Afrique, vous avez des enfants qui sont touchés. Vous avez quand même des cas de mortalité chez l'enfant. C'est pas le cas en France. Sauf chez les personnes qui seraient immunodéprimées.
Et il a attrapé comment cet enfant ?
Ben parce que, alors là, on est en train de faire l'enquête, si vous voulez, sur son entourage. Je ne sais pas que font ses parents, ses frères et sœurs.
On l'attrape. Moi, j'avais compris
L'attrape par contact. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Il faut bien faire la différence entre le contact. Donc, il suffit que personnes... Vous pouvez avoir la respiration très très proche, mais c'est surtout le contact cutané. Parce que vous avez des pustules avec du liquide.
Donc c'est sa mère qui lui faisait un petit câlin, qui l'embrassait, le père.
Là, il y a une surveillance. Il y a une surveillance qui se fait. Je rappelle qu'on guérit, si vous voulez, au bout de 3 semaines à 4 semaines.
C'est pas très grave, mais...
On n'hospitalise pas. C'est très contagieux.
Mais il y a des conséquences quand même. Il y a des cicatrices après.
Non, ça disparaît assez vite de ce côté-là. Ah bon, c'est pas la variole et il n'y a pas de mortalité. Aujourd'hui, on n'hospitalise pas. Sauf si c'est des cas particuliers qu'on a rencontrés.
Gérard, une question. Est-ce que ce serait une bonne idée de remettre le vaccin contre la variole obligatoire pour tout le monde ? Non. Et deuxièmement, on rajoute quand même, maintenant il y a 11 vaccins, je crois, obligatoires. On en rajoute maintenant la grippe, le Covid. Est-ce que ça finit pas par faire beaucoup de vaccins quasiment obligatoires ?
La question ne se pose pas du tout. Il est hors de question de refaire une campagne de vaccination contre cette maladie ou sur la variole. D'accord. C'est uniquement les cas contacts prouvés et l'isolement des cas contacts.
Écoutez, vous nous avez rassurés.
Bah oui, mais alors, justement, j'ai l'impression qu'il y a quand même aujourd'hui, on nous en parle, et ça fait flipper les gens. Donc, est-ce qu'on n'a pas tort d'en parler autant ? Est-ce que c'est grave ?
Il vient de vous répondre.
Non, mais justement, c'est pas grave.
Elle est impressionnante.
Impressionnante.
Voilà. Elle touche un certain nombre de populations particulières, sans stigmatiser personne, mais c'est une réalité.
Bon, le Covid, cher docteur. Covid.
Ouais. Bon. Ah, ça faisait longtemps.
Ah ben non, ça fait pas longtemps, une dizaine de jours qu'on en reparle tous les jours. Le Covid, 54 000 cas, 14 550 patients hospitalisés, 830 patients en soins critiques, 42 décès. Bon, ça augmente manifestement tous les jours. Bon, vous, je connais votre position, il eût fallu mettre le masque au moins dans les transports en commun.
Ne pas le supprimer.
Ne pas le supprimer.
Personne ne le réclamait.
Oui, oui.
Bon. Il y avait les gens
respectés.
Pas dans le métro.
Nous, on le réclamait.
Mais les gens s'ils veulent le mettre, ils le portent, leur masque.
Il n'y a pas de milieu clos pire que le métro et non ventilé.
Mais qu'ils le portent. Celui qui veut le porter, il le porte.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Oui. Moi, je prends le métro. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez des gens.
Les gens l'ont ou pas ?
Oui. Alors, certains ont le masque et d'autres non. Et ils se regardent en chien de faïence. Et quand une personne a le masque, elle voit quelqu'un, elle tourne la tête. Vous créez deux populations, si vous voulez. Oui. Mais personne ne le réclamait. Les gens étaient habitués. Bon. Ça a été pour des
raisons
électorales.
Quatrième dose de vaccin pour tous. La pandémie en pleine reprise avec les diminutions du respect des gestes barrières et la propagation. Alors, c'est le BA5. Hein. Le BA5, il n'est pas plus dangereux.
Il est très très contagieux, il est moins dangereux.
Ah, il est moins dangereux.
Il est moins virulent sur des formes graves. Par contre, ça dure beaucoup plus longtemps et il y a une fatigue assez prononcée, si vous voulez. Ça, c'est très clair.
Mais
il y a une fatigue. Alors, par contre, si vous voulez, on a beaucoup moins de personnes qui ont des problèmes de goût ou d'odorat, ce qu'on avait vu dans les précédentes vagues. Mmh. Beaucoup moins avec ce variant. On n'est pas à l'abri de formes graves si on est immunodéprimé, si on n'a pas été vacciné, si on a un certain nombre de comorbidités. On revient toujours sur la même ancienne là-dessus.
De toute façon, les gens vont plus être protégés à partir maintenant. La dernière vaccination, elle remonte à 5 mois, 6 mois. Donc
après
plus
60
personne...
ans, la recommandation, il faut être clair, après 60 ans, c'est faire effectivement la deuxième dose de rappel. Il y a moins de 50% des gens dans les EHPAD qui ont plus de 80 ans qui n'ont pas reçu cette dose de rappel. Et c'est là, si vous voulez, où il peut être effectivement dangereux. On a vu des cas graves, on a vu des mortalités importantes au Portugal. Alors ce qui est rassurant, c'est que le Portugal, la vague, ils ont passé le pic, si vous voulez, de l'épidémie. Donc ils sont en décroissance. Ça a duré 7 à 8 semaines. On espère aussi que nous, ça ne va pas trop déborder sur les vacances. Mais toujours être vigilant, faire du séquençage et voir si on a un nouveau variant.
J'ai l'impression quand même qu'on a pris un peu de distance par rapport à ce qu'on faisait il y a 2 ans et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui n'ont pas marché, disons-le, que le vaccin, pour les personnes effectivement fragiles, oui, pourquoi pas, mais je pense qu'aujourd'hui, chacun comprend que ceux qui ne sont pas fragiles, c'est peut-être pas utile de se faire vacciner pour une raison simple, c'est qu'il n'empêche pas la transmission.
Il n'empêche pas la transmission, il empêche les cas graves.
Voilà, donc, bah oui.
Alors, c'est ce qu'il fait. Non, mais, c'est ce
non, mais il y a un an, on s'est tous fait vacciner parce qu'on pensait que ça empêchait la transmission. Ouais, pardonnez-moi, c'était mais, ça alors, la raison.
Quelques notes d'optimisme, si vous me permettez, parce qu'il faut toujours en avoir. Toujours. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, même pour ces formes graves, dans la première phase, qui est la phase virale, on a un médicament par voie orale qui s'appelle le Paxlovid et qui empêche effectivement d'avoir des formes graves et des anticorps monoclonaux. Mais surtout, ce Paxlovid, bon, que j'ai prescrit à plusieurs reprises, il empêche d'avoir des formes graves chez des personnes qui sont susceptibles d'en avoir. C'est le premier point. Le deuxième point, il va y avoir de nouveaux vaccins qui vont arriver en septembre au cas où, qui vont être faits avec différents variants et qui devraient être beaucoup plus efficaces en ce qui concerne la transmission.
D'accord. Et dernière chose, les gens que vous suivez à la salpêtrière, les gens qui ont ce qu'on appelle des Covid longs et notamment le goût, l'odorat, tout ça, est-ce qu'ils retrouvent au bout de 12 mois le goût, l'odorat ou est-ce que vous avez encore des gens que vous voyez qui n'ont pas retrouvé ?
Le Covid long, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, le goût et l'odorat, si vous voulez, il y a des gens, il n'y a pas d'invention, si vous voulez. Alors là, ce qu'il faut, c'est une sorte de rééducation. Parce que ce que vous avez avec ce virus, il va toucher au niveau local, au niveau des cellules.
Mais est-ce qu'il retrouve ? C'est ça ma question.
Si est-ce qu'il retrouve ? C'est au niveau cérébral. Parce que le goût, l'impression d'être salé, sucré, c'est bon, c'est mauvais, ça sent la rose ou pas, c'est au niveau cérébral qu'est l'interprétation. Donc il faut rétablir ce lien entre le local et le cérébral par l'éducation. Donc ce que nous demandons aux patients, vous achetez des huiles essentielles et plusieurs fois par jour, vous rééduquez votre nez.
Et ça marche ?
Vous rééduquez. Il y a des gens, c'est le vin par exemple. On leur demande de prendre du vin dans la bouche plusieurs fois par jour pour essayer que le goût... Non mais, et ça revient doucement. Et il faut le faire le plus tôt possible. Ça, c'est le premier point. Après, il y a, si vous voulez, les fatigues chroniques. Les gens qui disent « j'ai beaucoup moins de mémoire, je ne suis pas le même ». Alors, vous faites un certain nombre de bilans, vous ne trouvez rien. Et il y a un côté psychologique, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Il y a une sorte de choc. On essaye d'apprendre aux gens de prendre du recul par rapport à la maladie, par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est assez angoissant. Les antidépresseurs, dans certains cas, donnent de très bons résultats.
Bon, c'est vrai, cher Gilbert Deray, depuis que j'ai eu le Covid, j'ai un peu moins de mémoire. Bien évidemment.
Je ne m'appelle pas Gilbert Deray, mais ce n'est pas grave.
C'était drôle, cher Gilbert Deray. C'est mon effet manqué.
Oui, excusez-moi. Vous faites parler de choses très sérieuses.
Mais voilà, cher Gilbert Deray, depuis que j'ai eu le Covid, j'ai beaucoup moins de mémoire. Bon, ça me dirait la plaisanterie avec brio, tu sais, dans le. Ça tombe un peu. Ah, très très drôle, avec brio. Bon.
Bon. Non, voilà.
Mais voilà. On le voit plus d'ailleurs, Gilbert Deray, qui était à. Mais bon, il est retourné à sa spécialité. Là, le Covid, c'était juste une parenthèse. La pause, à tout de suite. Audrey Berthaud, à 9h33, on est un peu en retard.
Pour la Première ministre, la semaine s'annonce compliquée. Après les élections législatives, les postes clés de l'Assemblée nationale sont attribués cette semaine. Et la Première ministre, Elisabeth Borne, a moins d'une semaine pour faire des propositions au chef de l'État sur un nouveau gouvernement d'action. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est le dernier chiffre communiqué par le ministère entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenues religieuses dans les établissements scolaires, il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Enfin, en tennis, le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui à Londres. L'état de santé de Rafael Nadal va être scruté de près et l'Espagnol se veut rassurant avant son premier tour demain. Le dernier vainqueur de Roland-Garros a subi des injections au pied gauche.
Deux choses à retenir donc de l'intervention de Robert Sebag ce matin sur le Covid. Première chose, pour retrouver le goût, un petit litron de rouge tous les jours.
Et là, vous retrouvez... dans la bouche et vous le recrachez.
Vous retrouvez le goût, un petit litron tous les jours.
Éducation monasale avec des
et puis, alors là, je pense que vous avez appris des choses à des gens. C'est-à-dire qu'il y a un médicament pour lutter contre le Covid. Mais alors, les gens vont vous dire, mais pourquoi se faire vacciner ?
Non. Pas uniquement, on le réserve. Il a quand même des effets secondaires. On le réserve chez des personnes qui peuvent effectivement faire une forme grave.
Bon, le gouvernement à présent, la coalition, c'est impossible, sans doute. Je voudrais qu'on écoute, non pas Adrien Quatennens, parce que lui, il n'ira sans doute pas. Il n'a pas envie d'échanger avec le président de la République. Mais en revanche, François Bayrou, qui s'est exprimé sur la coalition impossible.
Vous allez dire Bayrouth.
Je pense que le président de la République n'a pas du tout l'idée que les coalitions vont devenir possibles. Il n'a pas du tout l'idée que de nouveaux contrats vont être... Je ne crois pas. Peut-être le sens de la persuasion va faire bouger les choses. Je dis que je n'y crois pas. En revanche, ce à quoi je crois, je vais reprendre les termes que j'ai utilisés parce qu'il me semble que ça ressemble à ça. Je crois à un gouvernement des bonnes volontés. Et je crois aux majorités d'idées.
Un gouvernement des bonnes volontés.
On a le droit d'être naïf.
Demain, on sera avec Jean-François Copé.
Ah oui, alors là, ce ne sera pas une bonne volonté. Ce sera une intelligence très partisane et qui est à fond pour Emmanuel Macron. De manière très étrange. Tu peux continuer
là. Oui, parce que j'aime bien quand vous êtes un peu méchant.
Non, mais il n'est pas. Jean-François Copé oui. n'est pas le seul aux oui. Républicains. Mais ils ne sont pas nombreux à souhaiter tout de même cette promiscuité politique.
Alors, j'ai vu quand même un sondage passer ce week-end qui m'a sidéré. 72% des électeurs des Républicains souhaiteraient qu'il y ait une alliance avec Emmanuel Macron.
Tiens.
Vous avez vu ce sondage qui est passé bon, en tout cas, on en parlera demain avec lui. Je voudrais qu'on parle de Pap Ndiaye. Ah oui. Pap Ndiaye, qui est un modèle de tolérance. Vraiment, j'ai lu son interview. Son interview dans Le Parisien. Mais si quelqu'un qui n'était pas de son camp disait la racine carrée de ce qu'il a dit, il serait déjà dehors.
Tout à fait.
C'est d'une intolérance. Et puis alors, il a mis ses enfants dans le privé. Mais tout va bien.
À l'école alsacienne, en plus.
Il a mis ses enfants dans le privé, mais personne ne dit rien. Je veux dire, tout ça passe crème. Lui ne croit même pas en l'école publique. Et il a bien raison. Oui. En fait, parce que quand, vu l'état de l'école publique, c'est compliqué, il met ses enfants à l'école alsacienne, il incarne tout à fait les élites qui placent leurs enfants quelque part, et les gueux, il les méprise.
Le plus intéressant, c'est que...
Et il donne des leçons.
Son obsession, c'est les inégalités. Alors, si vous voulez, lui, il veut résoudre les inégalités à l'école publique, ce qui veut dire baisse du niveau. Hein. Si, c'est ce qu'il dit. Mais ça veut dire baisse du niveau.
Et Pascal, il y a plus grave dans l'interview, de mon point de vue, mais quelle légitimité a un ministre pour décréter qu'il ne fera aucun compromis avec le Rassemblement national et pour considérer que lui n'est pas dans l'arc républicain. Mais à quel titre ? Quelle est sa légitimité ? J'entends bien que le président a dit que LFI... LFI et le RN n'étaient pas... des partis de gouvernement, ce qui est scandaleux.
Mais pour qui se prend Pap Ndiaye ? Pour déclarer, ce n'est pas parce que le Front National parle de la République qu'il est républicain. Mais qui est cet homme ? Je veux dire, il méprise les 89 députés. Mais qui sont ces gens ? Et il a le droit, et il est ministre de la République ?
Il méprise 17%.
Mais lui, c'est lui qui n'est pas républicain, monsieur Ndiaye. Sauf qu'il est ministre.
Le Front National, il n'est pas le seul à le dire, quand même.
Ah, mais...
Alors qu'il mette ses enfants dans l'école alsacienne et qu'il ne nous donne pas des leçons.
Bah, autrement, expliquez-moi pourquoi il y aurait, y compris à droite, ce que Jacques Chirac a appelé une ligne rouge entre les Républicains et le Rassemblement National.
Ils ne parlaient pas de l'Assemblée nationale.
La raison qu'ils invoquent, c'est que justement, ils estiment que le Rassemblement National ne s'inscrit pas pleinement dans l'arc républicain.
Mais
il y a notamment une mesure... Alors, on peut contester. Simplement, j'explique. Il y a une mesure, notamment... que défend depuis toujours le Rassemblement national et qui peut poser problème, c'est ce qu'on appelle la préférence nationale.
Alors, je vais répondre.
Il y a un débat autour de ça. Est-ce qu'un parti qui défend la préférence nationale est un parti qui s'inscrit pleinement dans l'arc républicain? Alors, vous répondez oui, il y a beaucoup de gens qui répondent
non. Mais moi, je vais vous
répondre. Autrement, il n'y a pas d'autre. Non, simplement, je termine ma phrase. C'est l'explication qui a toujours été donnée par les Républicains pour refuser un accord avec le Rassemblement national.
Bon, alors maintenant, je vais vous répondre.
Alors ensuite, vous pouvez ne pas être d'accord.
Sur une simple question. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 98, nous dit, en gros, résume, qu'on ne peut pas être ministre de la République si on n'est pas français. Alors, M. Pap Ndiaye bénéficie de ce qu'on appelle une préférence nationale, donc qu'il ne nous donne pas de leçons. La deuxième chose qu'il dit, c'est « on m'a critiqué, pourquoi ?» parce que je suis noir, il dit de couleur, et que je lutte contre le racisme. Il dit ça dans l'interview, Pascal. Donc, on n'a pas le droit de... Zemmour, Marine Le Pen, n'importe qui, Pascal Praud, on peut disséquer chacune de leurs déclarations à l'aune du soupçon. Pap Ndiaye, qui a quand même des livres, des déclarations à son actif, on ne peut le critiquer que parce qu'il est noir. Il se moque de nous.
Et Gérard, votre argument serait valable, de mon point de vue, s'il ne s'agissait pas de l'Assemblée nationale. Les députés qui arrivent de quelque parti qu'ils soient, en quelque sorte, sont purgés de toute indignité dès qu'il...
Alors voyons le sujet de Marie Conan sur Pape Ndiaye. Et je rappelle, moi j'ai adoré... En fait, j'adore ces gens-là parce que c'est ce qui me fascine toujours. C'est des donneurs de leçons. Mais donc, il ne met pas ses enfants dans le public. Il est juste ministre quand même de l'Éducation nationale, mais il ne met pas ses enfants dans le public. Il les met dans un établissement privé sous contrat. Une école qui, précise-t-il, remplit une mission de service public. C'est juste l'école alsacienne. Hein. Je précise, c'est l'école la plus chic de Paris, bien évidemment. Et il dit, il y a des moments qui, dans le développement de l'enfant, peuvent être compliqués. Bon, ben voilà. Donc, ça veut dire que le public ne peut pas répondre. C'est-à-dire que lui, il a les moyens, mais pas les autres. Et il nous donne des leçons. Donc, c'est insupportable. Voyez le sujet de Marie Conan.
Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, exclut catégoriquement de s'allier au Rassemblement national, quelles que soient les circonstances.
Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front national. C'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front national. Et cette boussole, je ne la perds pas.
S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Pape Ndiaye ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs.
Ce n'est pas parce que le Front national parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution.
Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet craindre pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front national au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie.
Pape Ndiaye le répète, l'objectif durant son mandat sera de rassembler tous les Français et accueillir tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
Bon, et Pape Ndiaye, alors il choisit ses médias manifestement, il y a beaucoup de médias qu'il ne veut pas faire. Il avait fait Le Monde, mais bon, il n'y avait pas eu de reprise, donc il avait fait Le Parisien. Mais vous ne le verrez pas sur tous les médias, parce qu'effectivement...
On ne le verra pas à CNews.
Mais vous avez remarqué que Le Parisien lui pose la question d'une école privée sans mentionner le nom de l'école.
Je les connais par cœur.
C'est l'école de l'entre-soi, l'école alsacienne, c'est ça qu'il pose.
Je les connais par cœur.
Voilà. Qui, Le Parisien ?
Non. ce profil-là, c'est les efforts, c'est pour les autres, et on n'est pas concerné. Donc je les connais par cœur.
Ces projets pour l'école sont terribles.
René Chiche est avec nous. Alors René Chiche, bon, effectivement, vous êtes un professeur de philosophie, vous êtes à l'opposé de M. Pape Ndiaye. C'est vrai que je vous suis sur Twitter et que vous avez des positions parfois conservatrices et parfois même qui vont au-delà. Mais j'ai vu que vous aviez porté plainte dans sa déclaration au Conseil supérieur de l'éducation. Vous avez annoncé au ministre Pape Ndiaye, peu à l'aise, dites-vous, que vous constituez partie civile aux côtés de la famille Samuel Paty et porté plainte également contre l'éducation nationale. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et vous êtes effectivement membre d'un syndicat qui est l'équivalent dans l'éducation nationale de ce que peut être Alliance, c'est-à-dire... syndicat très à droite, disons-le, dans l'éducation nationale. Mais pourquoi portez-vous plainte contre l'éducation nationale dans l'affaire Samuel Paty ?
Bon, excusez-moi, Pascal, c'est pas possible de présenter les choses ainsi. Moi, je suis pas du tout de droite. Action et démocratie n'est pas du tout de droite. Soyons sérieux. Je ne veux pas participer non plus à des polémiques à deux balles sur Monsieur Ndiaye. Je lui ai fait confiance et je suis consterné par toutes les polémiques qui ont entouré sa nomination, mais j'ai annoncé que je le jugerai aux actes et que je le jugerai d'abord après l'avoir rencontré. Or, je l'ai rencontré effectivement une fois au Conseil supérieur de l'éducation, une première fois, où j'ai été absolument consterné par son absence totale de compréhension. Alors, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou du cynisme, de ce que je lui ai dit dans les trois quarts de ma déclaration concernant l'état présent de l'école qui est en un état de péril imminent, pour ne pas dire davantage. Monsieur Ndiaye semble n'être qu'un figurant et en réalité, il faudrait que je m'adresse au vrai ministre de l'Éducation nationale de ce pays, qui est Emmanuel Macron. Mais ce qui est plus important, c'est que dans cette déclaration... j'ai annoncé effectivement à la fin que nous allions, la CFE-CGC, bon, qui n'est pas du tout un syndicat de droite, excusez-moi, hein, j'insiste à nouveau, nous allions nous porter partie civile aux côtés de la famille de Samuel Paty, mais surtout, nous allons porter plainte également nous portons plainte également. Et avec une qualification qui est beaucoup plus forte que la qualification qui a été choisie par l'avocat de la famille de Samuel Paty, avec lesquels, d'ailleurs, je suis en très étroit et très bonne relation. Nous considérons que la vérité n'a pas été faite sur les responsabilités graves de l'éducation nationale dans ce qui a abouti à l'assassinat.
Oui. René Chiche, il faut que vous synthétisiez, pardonnez-moi, pourquoi vous portez plainte contre l'éducation nationale? Vous me le dites en 30 secondes après Audrey Berthaud, parce que là, nous ne savons pas. Dans 30 secondes, Audrey Berthaud d'abord. Audrey Berthaud.
Est-ce qu'Elisabeth Borne va réussir à former un gouvernement de coalition? Les négociations avec les présidents de groupe de l'Assemblée démarrent aujourd'hui et la tâche s'annonce difficile. Pour Adrien Quatennens, député NUPES LFI du Nord, aucun arrangement avec la majorité n'est possible. Dirigeons-nous vers une quatrième dose de vaccin pour tous. Pour l'instant, seuls les plus de 60 ans et les immunodéprimés y sont éligibles. Alors que l'épidémie repart à la hausse, la mesure n'est pas encore envisagée par le gouvernement, mais elle pourrait l'être à l'automne prochain. Enfin, ces images de la Gay Pride à San Francisco. Des milliers de personnes ont envahi les rues avec des drapeaux arc-en-ciel. Ils ont exprimé leur indignation face à la décision de la Cour suprême d'annuler le droit constitutionnel à l'avortement. Les manifestants s'inquiètent d'une série de lois soutenues par les Républicains visant les personnes transgenres.
René Chiche est donc avec nous, il est professeur de philosophie. Pardonnez-moi, René Chiche, je brutalise parfois un peu mes invités. Vraiment, je m'en fais le reproche. Mais je pense aux téléspectateurs. En 30 secondes, pourquoi vous portez plainte contre l'éducation nationale?
Parce que l'éducation nationale a une lourde responsabilité dans ce qui est arrivé à Samuel Paty. Ce n'est pas l'éducation nationale qui tenait le couteau qui l'a égorgé, mais c'est l'éducation nationale qui l'a exposé. Involontairement ou volontairement, selon les responsabilités des uns et des autres, qui devront être établies précisément, c'est la raison pour laquelle il faut un procès. Je dis donc que c'est l'éducation nationale qui a exposé Samuel Paty à ce danger. Car les choses ne sont pas arrivées comme un éclair dans un ciel serein. Pendant une semaine, Samuel Paty a été exposé à la vindicte. Et sur la base de mensonges, et ces mensonges ont été couverts, écoutez-moi bien, par la hiérarchie de l'éducation nationale. Il y a des fautes graves qui ont été commises dès le début, et si on ne n'explique pas cela, eh bien ces choses vont continuer, et d'ailleurs elles continuent à se produire.
Philippe Bézère.
Mais quelle infraction retenez-vous ?
Je ne vais certainement pas vous dévoiler en deux minutes, alors que je n'ai qu'un temps de parole extrêmement restreint et que je ne veux pas que ce que je vais dire soit l'objet d'une instrumentalisation. Je ne vais pas vous donner le détail de la plainte que nous rédigeons, ni celle de Maître Leroy, mais moi, la qualification que je retiens pour commencer, c'est celle de mise en danger d'autrui. Voilà.
Merci d'avoir été précis. Alors, je vous ai également invité parce que je suis votre compte Twitter qui est très intéressant d'ailleurs et on peut partager ensemble collectivement une observation, c'est que le niveau baisse. Bien évidemment, au moins sur l'orthographe et sur la culture générale, au moins. Et là, vous avez publié, si j'ose dire, un extrait d'une copie de philosophie. Bon, qu'on va voir. Voilà ce qu'écrit un lycéen en terminale. L'État ne devait pas décider, car l'État ne connaît pas le passé de chacun. Elle ne sait pas pourquoi cela est arrivé.
Elle ne sait pas.
Bon, voilà, c'est apostrophe. Etc. L'État ne connaît rien de ces personnes. Son but peut être dans le but de faire une bonne action ou simplement d'aider sa famille. Si les gens sont bien éduqués et bienveillants, il y a une faute par mot, hein. Nous n'avons pas besoin de l'État, le respect mutuel suffit pour remplacer l'État, comme cette célèbre citation, vivre et laisser vivre, etc. Bon, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est comment un élève peut-il se retrouver en terminale en écrivant comme ça. C'est-à-dire que sa place n'est pas en terminale, manifestement. C'est-à-dire que sa place n'est pas en terminale, sa place n'est pas en première. Comment est-il possible qu'on amène des gens au bac? C'est un leurre, et en plus cet homme aura peut-être le bac, donc c'est un mensonge absolu.
Il aura sûrement le bac.
Peut-être. Bon, mais j'invite vraiment à aller sur votre compte Twitter. Donc, il y a un système qui est défaillant. On n'emmène pas au bac des gens qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas à ce point l'orthographe, le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, etc. C'est effrayant, en fait, cette copie. Alors, bon, c'est une copie que vous avez vous-même corrigée, monsieur Chiche ?
Bien sûr, je suis en pleine correction en ce moment et effectivement, j'ai été assez peiné et attristé parce que cette copie, c'est pas la seule, évidemment. Alors certainement, on va me dire, ah, mais c'est un 10, 10 orthographique, dyslexique, j'ai choisi la pire, etc. Non, je vous dis, que ce n'est pas la pire et qu'il y en a des dizaines de semblables dans mon lot. Vous savez bien, Pascal Praud, puisque en fait on a déjà eu cette conversation il y a 3 ans, j'ai fait exactement la même chose il y a 3 ans. J'ai même, grâce à vous d'ailleurs, puisque c'est vous qui m'en avez donné l'idée, publié un livre sur le sujet qui s'appelle La désinstruction nationale, dans lequel je dis tout.
Vous allez arranger les affaires.
Mais je crois qu'il faut aller plus loin maintenant. Il faut aller plus loin. Il faut publier un livre entier avec les copies que nous sommes forcés de lire. Parce que l'hypocrisie, ça suffit. Il y a un rapport direct entre ce dont nous parlons maintenant et ce dont nous avons parlé juste avant. L'éducation nationale, c'est à la fois le temple des lâchetés et l'empire du mensonge. Ça suffit. Moi, je veux un vrai ministre. Je veux un vrai ministre de l'éducation nationale qui se mette en face de la réalité de la désinstruction, au lieu de pérorer sur le droit à la réussite pour tous, parce que le droit à la réussite pour tous, c'est un mensonge. La réussite, cet élève, il va réussir. Et réussir quoi ? Réussir quoi ? Franchement, je vous pose la question, essayez d'y répondre.
Je me demande si des professeurs qui seront issus de cette école-là, parce qu'il y a un processus cumulatif, seront demain capables, si vous voulez, de repérer ou d'apprécier à sa juste valeur une copie comme cela. Parce qu'en plus, ils sont formatés idéologiquement. Et dans son interview, Papendia, il dit « Mon maître mot, c'est le bien-être des élèves. » C'est pas les savoirs, c'est pas l'autorité, c'est pas l'orthographe, c'est pas la culture générale. Non, c'est le bien-être des élèves et les inégalités. Donc franchement, je ne crois pas que ça va s'arranger.
Merci Monsieur Chiche. Merci, on est un peu pressé comme toujours le matin. On a beaucoup de sujets que je voulais aborder. Je voulais parler du plan énergie dans une seconde, mais c'est un sujet absolument...
Et Jacques Angren, Pascal, a touché les professeurs.
Oui.
C'est terrible. Mais qui ne savent pas l'orthographe.
Mais moi, je pense que René Chiche a raison. On est dans une hypocrisie totale. C'est-à-dire que c'est pas de vague, on ne veut pas dire, c'est les lâchetés, etc. Donc, ça va être très compliqué. Là, par exemple, il se passe en ce moment des copies qui sont remontées en Île-de-France. On remonte d'un ou deux points. Les profs n'étaient même pas au courant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. On ne veut pas dire que les élèves ne sont pas bons. On encourage tout le monde.
CAPES, c'est pareil.
Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est le monde d'aujourd'hui. René Chiche, je voulais conclure, mais en 2 secondes, parce que je voudrais vraiment qu'on parle de l'énergie avant la pause.
Ben oui, vous venez de dire que le baccalauréat est obtenu avec de la triche, mais de la triche qui vient du ministère de l'Éducation nationale lui-même.
Bien sûr.
Mais donc, moi, je crois qu'il faut faire le procès de cette institution.
Mais faites-le, c'est vous, prof, de le dire. C'est vous de faire changer les choses. Merci, monsieur Chiche. L'énergie, formidable l'énergie. J'espère que vous avez commencé à ne plus venir en moto. Ah oui.
Je viens en général en métro.
Eh bien, vous viendrez à pied. Comme ça, vous ne ferez pas avancer le métro. Ça sera encore mieux. Vous prendrez plus qu'une douche par semaine à partir du mois de... Mais non, vous riez.
Moi, je ne viens plus à l'émission. Hein.
Bon, les Français sont appelés à réduire leur consommation. Vous voyez le sujet de Simon Guillain. Ça m'intéresse beaucoup. Mais si, une douche par semaine. Simon Guillain. J'avais
dit ça. Ils appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Les dirigeants d'EDF, d'Engie et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions.
Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre.
Arrêter les appareils en veille, sortir plus et rester moins chez soi.
Bon, j'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré, mais est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça ?
Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la Commission de régulation de l'énergie se veut rassurant.
Oui, nous avons des craintes ni des doutes. Nous avons à travailler pour qu'on passe correctement l'hiver en approvisionnement.
On n'en est pas sûr.
Moi, j'en suis sûr, mais chacun...
Ah, mais quand vous parlez, vous dites que l'hiver va être tendu. Ça veut dire quelque chose.
Oui, l'hiver va être tendu et je pense qu'on va arriver à passer l'hiver.
Le gouvernement confirme de son côté envisager le redémarrage provisoire d'une centrale électrique à charbon à Saint-Avold, en Moselle.
Vous vous rendez compte que c'est le sanctionneur sanctionné, l'arroseur arrosé. On donne à la Russie a plus exactement engrangé 61 milliards de l'Europe de plus depuis le 24 février. La France a donné 4 milliards à l'Europe, à la Russie. En plus pour le gaz. Puisque le gaz, la Russie en vend moins, mais elle le vend plus cher. Donc elle a 60... Et elle a donc un bénéfice de 61 milliards. Et on rouvre dans toute l'Europe des centrales à charbon. Sur le plan écologique, c'est vraiment parfait. Et là, on nous annonce qu'il va falloir prendre une douche par semaine.
Non, dis pas une douche. Pourquoi vous...
Franchement, non, ce sera deux.
Non, mais pour certains, personne d'abord, ça en fera au moins une.
Personne n'a jamais dit ça.
Bah, c'est quoi réduire sa consommation? Vous savez ce que c'est?
C'est la sobriété.
Mais c'est quoi?
Eh bien, la sobriété, par exemple, moi, je trouve anormal qu'en hiver, il y a des endroits qui soient surchauffés et qu'en hiver, vous avez une climatisation où quand vous sortez, vous attrapez la crève, ce qui fait beaucoup trop froid à l'intérieur.
Votre appartement, vous le mettez à combien? Là, votre appartement.
Il faut le mettre à 20 degrés.
Et bien, il sera 16, cher ami.
Non, 16, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont
mais 16, mais vous mettrez votre petit chandail.
Ils n'ont pas dit 16.
Ils vous mettraient votre petit chandail.
Il faut,
mais
faut,
20, pardonnez-moi, vous... Mais, attendez, là, vous... Non. Mais non.
Pourquoi
et, Gérard, 20, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, si on veut faire des économies, ça change rien.
Il y a des endroits, je pense.
Non, dans les chauffages.
Sur la climatisation, alors là, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'endroits qui...
Gérard, 20, c'est le chauffage collectif. Partout, c'est même 19-20. Je suis désolé de vous le dire, si vous voulez faire des économies, 20, ben vous êtes au-dessus de la moyenne. C'est
19,
précisément... Non, vous changez rien. Ah bon. C'est 16, c'est exactement ce que j'ai dit.
Non, ils n'ont pas dit... Personne,
mais personne n'a dit 16.
Personne n'a dit 16.
C'est moi qui vous le dis.
Vous me le dites.
Ben c'est quoi si vous ne faites pas des économies?
Mais on peut le faire sans descendre jusqu'à 16. On peut peut-être le faire.
Ben alors vous ne changez rien, c'est 19 aujourd'hui.
18.
Mais 19, mais enfin, vous entendez ce que je dis.
Je vous ai répondu sur la climatisation, vous ne me répondez pas. Vous trouvez pas choquant qu'en été, on crève de froid à l'intérieur dans plein de bâtiments publics? Je veux dire, partout, chacun peut faire quelques efforts. On est dans une situation extraordinaire, dans le vrai sens du terme, exceptionnelle. Mmh. Il y a la guerre en Europe, il y a l'Ukraine. Vous dites il fallait pas faire des sanctions contre la Russie. Bon, ben donc oui, il fallait les faire.
Je vous ai
donc on est dans une. Je pense que chacun peut essayer. Ça s'appelle la citoyenneté, de faire un peu des
Robert
efforts.
Robert Sebag va nous quitter.
À l'inverse, je termine mon argumentation. Oui. À l'inverse, quand Total fait 15 milliards de bénéfices grâce notamment à la hausse à l'envolée des cours du pétrole et du gaz, etc. Je pense que Total pourrait peut-être rendre un peu des bénéfices qu'ils font. Voilà. Même s'ils ont besoin de faire des bénéfices pour continuer à faire leurs activités.
Rendre les bénéfices.
Non. Vous trouvez ça normal? Tout le monde fait des efforts. Les compagnies pétrolières.
Vous avez gagné trop d'argent, vous vous en priquez encore un peu. Robert Sebag, lui qui fait des efforts.
Ah non, vous êtes pour les 15 milliards sur le Total, ça vous
Je trouve que c'est très démago ce que vous venez de dire, donc je ne rentre pas là-dedans.
Oh,
en revanche, Robert Sebag, je le salue. Pourquoi? Parce que Robert Sebag, lui, il fait des efforts. Vous êtes venu en vélo ce matin ou pas?
Non.
Parfois, il vient en vélo.
Oui, oui, souvent, je suis en vélo. Oui.
Le plus souvent, il est en vélo.
Ouais, je suis en vélo.
Bon, vous avez bonne mine?
Oui, je sais pas.
Vous travaillez toujours? Là, vous allez à la Salpêtrière? Vous allez voir les.
Les varioles du singe. Voilà.
Non, bah, entre autres, mais bon, c'est vrai que vous êtes.
Les HIV, toutes les maladies infectieuses, ça n'arrête pas, les tuberculoses. Enfin,
bon. Bah, écoutez, merci en tout cas, c'est la fin de l'année. Nous, on est là jusqu'au 8 juillet, je ne sais pas si on vous reviendrait avant le 8 juillet, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir, ou en FaceTime, ou en Skype, ou sur notre
ravi
plateau.
Ravi de partager.
Non, vraiment, merci beaucoup. On va recevoir dans une seconde Jean-Marie Perrier. Pourquoi? Parce que nous sommes. Il y a 20 ans, mourait François Perrier.
Salut les copains.
François. Ouais, mais là, Jean-Marie, on l'avait reçu pour son bouquin. Mais là, on va rendre hommage à François Perrier, entre autres. François Perrier, immense comédien, qui est mort il y a 20 ans. Donc, comme il n'y a que nous, sans doute, qui ce matin allons lui rendre hommage, nous allons lui rendre hommage.
Belle.
À tout de suite. Dans une seconde, on sera avec Jean-Marie Perrier pour rendre hommage à François Perrier, qui est décédé le 28 juin 2002. C'était il y a 20 ans, on est le 27 juin aujourd'hui. Audrey Berthaud.
La France a atteint sa cote d'alerte sur les finances. C'est ce qu'estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire au moment où l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition pour son projet de loi sur le pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, la dette publique française a dépassé les 2,900 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre. Plusieurs dizaines de motards ont manifesté hier à Paris contre le stationnement payant des deux roues dans la capitale. La mesure entre en vigueur le 1er septembre prochain. La Fédération française des motards en colère s'est donc mobilisée hier. Et puis les orages n'en finissent plus. La grêle est tombée hier soir sur le nord-est du pays à des grêlons de la taille d'une balle de golf. Jamais un mois de juin n'avait été aussi électrique. Depuis le début de l'année, 180 000 éclairs ont déjà touché le pays.
Quelle joie, Jean-Marie Perrier, de vous retrouver.
Bonjour.
Bonjour. Vous étiez venu il y a quelques semaines nous voir pour le livre que vous aviez sorti avec les photos de ces années 60-70.
Non, c'était les EHPAD. C'était pour les EHPAD.
Ouais, c'était pour les EHPAD, mais il y avait évidemment toutes ces photos qui étaient là et donniez aux EHPAD la possibilité de mettre ces photos dans leurs établissements. Vous nous aviez parlé, notamment, vous aviez dit quelque chose qui avait fortement marqué l'opinion française. Vous aviez dit que vous aviez arrêté toute vie amoureuse. Je ne sais pas si depuis vous êtes revenu sur cette décision.
C'est terminé. Bonsoir, merci. J'ai vu le film, ça va. Je connais la fin. C'est le jardinier qui a tenu ça.
Et que vous vous consacrez désormais à votre petit chien. Si j'ose dire, qui n'est pas là. Donc on avait passé un moment merveilleux avec vous. Mais on avait parlé de François Perrier. Et on s'est dit, François Perrier est mort il y a 20 ans, jour pour jour. Bon,
François Perrier. Vous êtes bien le seul, d'ailleurs, journaliste en France à parler de ça, et je vous en remercie.
Mais oui, parce que d'abord, on a une tendresse folle pour les comédiens ici, les grands comédiens de cette génération. Et puis il y a François Perrier, qui est un acteur de théâtre éblouissant. Moi, je ne l'ai jamais vu sur scène. Hélas, mais j'étais pas à Paris à cette époque-là quand il jouait encore sur la scène, mais évidemment au cinéma, c'est Z, c'est Max et les Ferrailleurs, c'est Juste avant la nuit, qui est un film formidable de Chabrol, c'est Police Piton, c'est des films avec Delon, c'est beaucoup de films où il était parfois premier rôle, second rôle, mais c'est un acteur vraiment tout à fait extraordinaire. Mais vous nous avez apporté beaucoup de photos sans doute d'archives qui vous appartiennent, et notamment celle-là avec laquelle je voulais commencer, c'est Louis Jouvet. Il joue d'ailleurs dans l'entrée des artistes, François Perrier. Il joue dans la salle, quoi. C'est un des comédiens, élèves comédiens. Et Jouvet, vous-même, c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez connu Jouvet. Oui, vous avez vu Jouvet. Vous avez entendu la voix de Jouvet.
Jouvet était très, très ami avec mon père. Et je me souviens, quand on habitait cette maison à Neuilly qui donnait sur la Seine, il venait souvent. Je le voyais d'ailleurs derrière la fenêtre quand il nous regardait jouer. Il trouvait que c'était un peu du gâchis de jouer. Quand lui jouait, c'était sérieux. Hein. Et un jour, je me souviens, c'est pour ça que ce dont vous parliez avant m'a beaucoup touché. Parce que moi, si j'ai pu écrire aujourd'hui, c'est grâce à Louis Jouvet. Puisqu'un jour, j'étais en train de déjeuner tout seul. Et il est sorti du bureau de mon père. Et il m'a fait: ton père veut que tu fasses du latin. Il a raison. Et il est sorti. Et j'ai fait du latin. Et c'est grâce à ça que j'ai pu écrire.
Et Louis Jouvet était très ami avec votre père et votre mère, qui s'appelait Jacqueline Porel, qui était une femme très belle, a quitté, c'était très moderne d'ailleurs sans doute.
Très en avance sur son époque.
Elle a quitté François Perrier. Bon, elle l'a quitté. Bon, elle est partie, vous laissant d'ailleurs, vous, les enfants, avec votre père.
Trois enfants et les meubles.
Donc voilà, et c'est pas. Et je crois que Jouvet est venu dans l'hôtel particulier le soir. Là, pour essayer de consoler François Perrier.
C'était magnifique parce qu'il est arrivé d'abord, il a regardé l'endroit et il dit: mon petit François, tu ne manqueras pas de place. Et ensuite, mon père était effondré. Hein. C'est vraiment la femme de sa vie. Il le pensait. Heureusement, depuis, il y a eu Colette qui ne l'a jamais lâché. Mais si vous voulez, il était absolument effondré. Et Jouvet lui a dit: un jour, mon grand, tu vas ouvrir la fenêtre et tu vas te dire: tiens, mais il y a des arbres. Ce jour-là, tu seras sauvé. Très belle phrase.
Alors, on va parler de la carrière de François Perrier, du rapport qu'il avait à la comédie, du rapport à son métier. Mais l'actualité, nous la poursuivons quand même en parallèle, puisqu'aujourd'hui, le procès Jean-Marc Reiser s'ouvre. Et on va le suivre, ce procès, cette semaine, avec Noémie Schulz. Il comparaît à Strasbourg pour le meurtre de Sophie Le Tan, cette jeune femme de 20 ans, piégée par une petite annonce, puis tuée le jour de ses 20 ans en 2018. Je vous propose de voir peut-être le sujet et de faire un point sur cette ouverture du procès à Strasbourg.
Pendant des mois, les proches de Sophie Le Tan se sont battus pour retrouver le corps de la jeune femme, disparue après avoir visité l'appartement de Jean-Marc Reiser. Tous redoutent de faire face au bourreau de l'étudiante et espèrent repartir avec des réponses à leurs nombreuses questions.
On ne peut pas compter sur lui. Il a toujours menti. Il a toujours été dans le déni. Il change toujours de version. On ne peut rien attendre de sa part. On espère simplement que, avec les nouvelles technologies, les analyses, les enquêtes permettront d'expliquer le déroulement de ce qui s'est passé lorsque Sophie a visité l'appartement.
L'ombre d'une autre jeune femme va planer sur les débats. celle de Françoise Oman, 23 ans, disparue en 1987 après s'être rendue elle aussi au domicile de Reiser. Faute de preuves, le suspect a été acquitté en cour d'assises. Alors pour le cousin de Sophie Le Tan, ce procès sera aussi pour la famille Oman.
Ce procès-là, c'est pour les deux familles et on espère que justice soit faite comme il se doit.
Jugé pour l'assassinat de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser encourt la peine maximale, la prison à perpétuité.
Jean-Marc Reiser a 61 ans. Il a longtemps nié avant de reconnaître le meurtre début 2021. Il conteste la préméditation, affirmant avoir perdu les pédales quand elle a repoussé ses avances. Et puis son profil, Noémie Schulz, nous intéresse, si j'ose dire, parce qu'il a déjà été condamné en 2001 à 15 ans de réclusion pour des viols commis en 95 et 96. Donc c'est un homme qui a été condamné et qui était sorti de prison. Noémie Schulz, bonjour.
Oui, absolument. Jean-Marc Reiser, quand il est arrêté une semaine seulement après la disparition de Sophie Le Tan, la police se rend très vite compte qu'il est bien connu, qu'il a déjà un lourd casier judiciaire. C'est un homme, vous l'avez dit, qui a été condamné pour deux viols et qui a été jugé aussi déjà pour le meurtre d'une jeune femme. On l'a évoqué dans le sujet, Françoise Oman, une jeune femme qui avait disparu juste après s'être rendue à son domicile, mais il a été acquitté pour ces faits-là, faute de preuves. Il ne pourra plus jamais être inquiété d'ailleurs pour cette affaire. Jean-Marc Reiser, à l'époque des faits, il est, d'après ses proches, réinséré. Il commence d'ailleurs des études. C'est sans doute à l'université qu'il va croiser Sophie Le Tan. Pendant des mois, il va clamer son innocence, malgré les preuves qui vont s'accumuler, sa téléphonie d'abord, des traces de sang retrouvées dans son appartement. Même quand on va retrouver le sang de Sophie Le Tan sur une scie cachée dans sa cave, eh bien, il va clamer son innocence. C'est presque par hasard que des promeneurs vont retrouver les restes de la jeune femme plus d'un an après sa disparition. Et puis il a fini par reconnaître avoir tué Sophie Le Tan. Il nie toute préméditation. Il parle de coups de colère. Il dit s'être emporté parce qu'elle l'avait éconduit. La famille de Sophie Le Tan redoute l'épreuve de ce procès, mais espère pouvoir reconstituer un peu le puzzle, reconstituer les derniers instants de leur fille et comprendre la raison pour laquelle elle a été sauvagement tuée par Jean-Marc Reiser.
Eh bien, merci Noémie. On suivra évidemment quotidiennement ce procès. L'actualité, c'est, je vous le disais, la présence ce matin sur notre plateau de Jean-Marie Perrier. Et j'espère que le nom de François Perrier, le visage de François Perrier n'est pas oublié parmi les jeunes générations. Et je voulais vous faire écouter un premier document. C'est Michel Denison. On est en 1977.
Oui.
Donc François Perrier a 58 ans et il parle de son métier.
On va vous demander comment vous êtes devenu comédien. C'est une question banale.
Bon, j'étais attiré par tout le mauvais côté de ce métier. Enfin, il y avait déjà, il y a de ça un peu plus de 40 ans, il y avait déjà à l'époque une presse qui disait que le métier d'acteur était un métier facile, agréable, qu'on gagnait beaucoup d'argent, qu'on avait de jolies femmes dans les bras, etc. Donc j'étais attiré par ça, par le côté absolument factice. Et puis le hasard a voulu que j'écrive à Louis Jouvet.
Vous aviez quel âge ?
J'avais pas tout à fait 15 ans. Le miracle s'est produit, il m'a répondu. Et il m'a reçu. Et il m'a reçu à peu près pendant 3 ou 4 minutes. Et en 4 minutes, il m'a expliqué ce qu'était ce métier. Et je suis sorti non seulement en voulant faire ce métier dont il venait de me parler, que je venais de découvrir, qui n'était pas du tout ce que je m'imaginais, un métier auquel il fallait se consacrer totalement. Je suis sorti non seulement en voulant le faire, mais en plus en voulant le faire comme lui. Je ne crois pas y être arrivé, mais j'ai toujours essayé de le faire aussi bien.
Quel charme, quelle voix, quel charisme.
Quelle intelligence.
Quelle intelligence. Et on a parfois l'impression que le moule est cassé de ces comédiens qui existaient en dehors de leur film.
Oui, puis aussi, mon père, quand il faisait une pièce, il lui arrivait de la jouer 1000 fois. Il a quand même joué 3 pièces 1000 fois. Les J3, Bobos et Gog et Magog. Il travaillait tout le temps. C'est-à-dire, bon, le problème, c'est que c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup vu, moi. Je veux dire, j'ai jamais été en vacances avec mon père, parce qu'il travaillait tout le temps. Regardez le jour où il rencontre Jean-Paul Sartre. Il a fait le matin des radios à Europe 1, parce qu'il racontait des histoires tous les matins. L'après-midi, il allait tourner dans un film. Le soir, il était au théâtre, dans une pièce de boulevard, pour nous faire becqueter. Je ne vais pas lui reprocher. Et Jean-Paul Sartre arrive et lui dit, voilà, je voudrais vous donner ce texte. Il ne le connaissait pas. Lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Il va jouer sa pièce. Il rentre chez lui, il lit la pièce pendant 2 heures, à la suite de quoi il appelle Sartre à 2 heures du matin, L'autre lui dit, ben, venez tout de suite. Il passe la nuit à parler avec lui de cette pièce. Il va dormir 4 heures. Et ensuite, il répétait cette pièce.
C'est quoi la pièce? Le diable et le bon Dieu.
Non, les mains sales. Mais ce qui est frappant dans l'extrait qu'on voit là, c'est quand je dis ils avaient une existence en dehors des films. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on voyait chez Pivot, chez Chancel, chez Labro. Et il y a un charisme qui passe, même dans l'interview. Ils n'ont pas besoin des mots des autres pour parler eux-mêmes. Il y a une culture aussi.
Qualité du langage.
Qualité du langage et puis qualité de voix. Tout à fait.
C'est tout un sens de l'humour vraiment constant.
Alors, vous nous avez apporté plein de photos. On a vu une photo avec Depardieu parce qu'il joue à Tartuffe. C'était une alors ça, je l'avais vu pour le coup. C'était une mise en scène de Jacques Lassalle, je crois, à Strasbourg, qui était un Tartuffe un peu particulier. Où les rapports. Alors, Depardieu et en plus Depardieu et Perrier, c'est deux mondes différents.
Ben oui et non, parce que en réalité, mon père est parti de très bas. Oui, je veux dire, son père, il vendait du charbon et sa mère, elle tenait une boutique de, je crois que c'était une mercerie à Birakeim. Bon, c'est la toute petite bourgeoisie, hein. Donc, non, au fond, ils avaient certainement des choses en commun, sauf que, bien sûr, Gérard est un écorché vif alors que mon père était plutôt doué pour le bonheur, disons.
Audrey Berthaud.
Ce tour de table du G7 avec ces images qui viennent d'arriver à l'instant. Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence aujourd'hui au sommet donc du G7 organisé en Allemagne. Le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants, notamment plus d'armes pour l'Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie. Premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en Île-de-France. L'Agence régionale de santé a précisé qu'il ne présente aucun signe de gravité. Et pour le chef de l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe n'est pas une urgence sanitaire mondiale pour le moment. Et puis clap de fin pour les Solidays avec un nouveau record de fréquentation pour la 24e édition de ce festival. Plus de 247 000 personnes ont participé à l'événement. Les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie.
Quand j'étais enfant, il y avait une émission formidable que je regardais le jeudi après-midi parce qu'on n'avait pas classe. C'était Aujourd'hui, Madame. Vous avez connu Aujourd'hui, Madame.
Oui, absolument.
Et en fait, c'était très moderne, Aujourd'hui, Madame. C'était une sorte d'heure des pros, Madame.
Le ton n'était pas tout à fait...
Oui, c'était quand même un peu, ouais.
C'était pas tout à fait...
C'est marrant parce que Christine Kelly, on parle dans son livre.
Mais oui, mais on a tous... Alors, on regardait Aujourd'hui, Madame, et puis après, il y avait Flipper le Dauphin le jeudi. Bon. Et là, j'ai trouvé un extrait du 9 février 1974... Vous êtes donc avec votre père pour présenter un film qui s'appelle Antoine et Sébastien, parce que vous avez fait tourner votre père. Voyez cet extrait en noir et blanc.
Jean-Marie Payet, est-ce que vous avez fait le film autour de François Perrier ou est-ce que vous avez choisi François Perrier parce qu'il était le personnage?
C'est-à-dire que oui, non, j'ai fait le film autour de François
Perrier. Et pour lui au départ?
Oui, bien sûr, pour lui. De toute façon, j'avais écrit déjà plusieurs histoires et dans toutes les histoires que j'ai écrites, il y était. C'est peut-être une obsession, mais il fallait le faire une fois. Bon, je voulais absolument le faire. Le film Antoine et Sébastien a plutôt été écrit au départ sur la personnalité de Jacques Dutronc. Et de toute façon, il coulait de source que mon père était dedans. Voilà, si vous voulez. Alors, j'ai essayé de mettre dans le film les rapports entre Antoine et Sébastien qui, vraisemblablement, ressemblent de près aux rapports que nous avons avec mon père dans la vie. Voilà.
Il y a beaucoup plus d'amour et de connivence entre ce père et ce fils qui n'est pas le vrai fils, qu'entre beaucoup de pères et beaucoup de vrais fils. Est-ce parce que le fils a été adopté et le père a été l'élu fils ?
Ça n'est sûrement pas par hasard que Jean-Marie a voulu que ce ne soit pas mon véritable fils et que ma fille, comme l'a rappelé Madame tout à l'heure, était ma belle-fille. D'abord, pour qu'ils puissent éventuellement se marier, puisque c'est mon projet. Et puis d'autre part, je crois que Jean-Marie a voulu, mais il dirait aussi bien que moi, il a voulu que ce soit une famille qui s'est choisie.
Bon, chacun connaît votre histoire, c'est l'histoire de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes le fils biologique, on dit, d'Henri Sal... Non ?
On ne dit pas de mots. Je ne parle plus de son nom, celui-là, c'est adieu. Non, mais mon père m'a adopté, non. Oui, c'est vrai. Ouais.
Et donc... François Perrier vous a adopté, mais ce qui est incroyable, et c'est pour ça que l'enfance est toujours présent toute la vie, c'est qu'on vous apprend que votre père n'est pas votre père, n'importe comment, quoi.
Oui, non, c'était un amant de ma mère, très gentil d'ailleurs, parce que chez ma mère, ce qui était curieux, c'est qu'elle ne vivait plus avec nous. Donc quand j'allais la voir, à chaque fois, la porte s'ouvrait et hop, il y avait la même robe de chambre et la tête du mec changeait souvent, il faut bien le dire. Et là, Non, parce qu'elle était très en avance sur son époque.
Ils n'avaient qu'une seule robe de chambre qui se refilait.
Bah oui, oui, c'était plus pratique. Et alors, donc, un jour, je vois là, en haut, je le reconnais, celui-là, le type. Il était très gentil, c'était un danseur. Il dansait avec ma mère au Club Saint-Germain. Il était très beau, très gentil. Mais il n'avait pas inventé le soutien-gorge, le mec. Donc, si vous voulez, il m'emmène. Je lui dis, mais ma mère, où est-ce qu'elle est? Il dit, ah, elle n'est pas là, elle va venir, bon, t'inquiète pas. Hop, et donc, je me retrouve avec ce type-là tout seul. Et il ne sait pas quoi me dire. En plus, si vous voulez, bon, je suis quand même chez moi un peu. Lui, il est en robe de chambre. Moi, je suis habillé, donc c'est curieux. Et à un moment donné, ce mec, il va, hop, sous la table, dans un silence de là, il me montre une pochette de disques avec un noir enroulé autour d'une guitare. Il me dit, voilà, ton père, c'est pas ton père, ton père, c'est lui. Voilà.
Vous avez 7 enfants, là.
Je m'en suis jamais sorti, en réalité. Et au fond, après ça, j'ai décidé, moi, que mon père m'avait adopté, donc je l'ai, moi, adopté à 16 ans. Voilà. Et au fond, c'est le cas de beaucoup de gens. Parce que même, bon, là, c'est extrême, parce que, bon, c'était pas mon père biologique. Mais finalement, on les adopte, ses parents, ou on les adopte pas. Mais moi, j'ai eu cette chance.
Et François Perrier, votre père, vous lui avez dit un jour que vous saviez ?
Oui, je lui ai dit. J'ai attendu. Non, c'est-à-dire que je suis d'abord allé voir. Parce que c'était très curieux. Je ne savais pas qui c'était, moi, ce type, le chanteur. Là, je voyais. Alors, j'ai vu dans la rue une affiche avec un type enroulé autour d'une guitare. Bon, je suis allé à l'Alhambra. Il passait à l'Alhambra. J'ai acheté ma place. Vous voyez la scène. Hein. Bonjour, madame. J'aurais une place pour mon géniteur. Enfin, bref. J'ai donc acheté la place. Et là, j'ai vu un type qui, à l'époque, avait vraiment un talent fou. Il ne faisait pas le clown comme après. C'était un grand musicien. Et ce qu'il faisait sur scène était extraordinaire. Bon, le problème, c'est que moi, ma vie, c'était la musique. Moi, j'étais musicien. Je pensais qu'à ça. Je voulais faire que ça. Là, tout à coup, je vois ça, paquet cadeau, fini, bonsoir, au revoir. Je suis sorti de là, effondré, et j'ai décidé ce soir-là de... Mon père m'a adopté, donc moi, je vais l'adopter aujourd'hui. Donc, j'ai laissé le piano, que je jouais depuis toujours, j'ai arrêté le piano, et j'ai décidé d'être le fils de mon père. J'ai choisi mon père comme lui m'avait choisi quand je suis né.
Alors, vous nous avez apporté pas mal de photos de François Perrier, parce que c'est lui, évidemment, à qui on a envie de rendre hommage ce matin. Et il y a quelque chose chez les comédiens. Alors, Anne-Marie Perrier, qui nous écoute peut-être, qui est au premier rang, on la reconnaît, nous sommes d'accord. Vous, vous êtes à gauche, et puis votre autre frère, qui est là, c'est une... Ça, c'est une photo de famille que vous...
Ah bah oui, oui, absolument, oui, oui, oui. Oh, ça a peut-être été fait par un journaliste de l'époque, mais... Là, il y a mon petit frère Jean-Pierre qui, lui, a eu une fin terrible puisqu'il est tombé dans la drogue et il s'est jeté par la fenêtre. Donc, si vous voulez, pour mon père, ça a été une coupure terrible, terrible.
On va voir les photos que vous nous avez apportées. Donc, ça, c'est une photo, je ne sais pas où elle a été prise, d'ailleurs.
Oui, mais... il a toujours dit, c'est ça qui était fou, c'est que pour lui, j'étais son préféré, toujours. Alors qu'il ne savait pas à l'époque. Hein. Il a appris l'histoire, il l'a appris 3 ans plus tard par une lettre anonyme, un mec qui lui a dit « Ah, ton fils, pas ton fils ». Ça, c'était encore une élégance de l'époque.
Est-ce que lui-même ne le savait pas?
Vous n'avez pas compris ça?
Non, non. Ah, oui. Vous voyez bien que j'étais un peu bronzé, mais je disais,
oui, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Quand même, on sait sans savoir dans ces cas-là, peut-être.
En tout cas, il ne voulait pas le savoir. Ouais. Ça, c'est certain.
Bon, il faut bien comprendre que François Perrier était une immense vedette. Une immense star du théâtre, bien sûr, avant d'être... Alors là, c'est Bobos. Bobos, c'est plus rejoué, d'ailleurs, à Paris. C'est d'André Roussin, Bobos.
Oui.
Ça a sans doute un peu vieilli dans l'écriture, et c'est une pièce... Je ne crois pas qu'elle ait été rejouée.
Ça tient debout, André Roussin, encore.
Oui, alors là, il tient debout sur la tête, en l'occurrence, mais... mais c'est vrai que ça dépend. Lorsque l'enfant paraît... C'est intact, hein, on peut le revoir, c'est vraiment une pièce très drôle, très... Bon, Bobos, je pense qu'il a un poil vieilli. Alors ça, c'est effectivement l'engagement politique, parce qu'il y avait un engagement, là on reconnaît mon temps, il y a une mythologie autour de François Perrier, Simone Signoret, Auteuil, les week-ends, Reggiani, tous ces gens-là, ça fonctionne ensemble. C'est des gens très engagés à gauche quand même.
Oui, mais mon père au départ, lui, il n'est pas engagé à gauche au départ. Au départ, il est le fils d'une famille de gens pas riches du tout, et il est plutôt de droite, lui, au départ. Mmh. Et puis, il rencontre avec, effectivement, Simone Signoret, surtout. Mmh. Bon, et en réalité, il était, comme moi, c'est-à-dire, il était au milieu, hein, parce que moi, la droite, la gauche, bon, donc... Voilà. Et sa vie a entièrement changé le jour où il a rencontré, je crois, Simone. Simone a beaucoup, beaucoup compté.
Qui était vraiment manifestement la pierre angulaire de tout ce petit groupe. Égrenons les photos et voyons une photo, celle-là, que vous pouvez nous commenter peut-être.
Là, ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai eu deux chances dans ma vie. Mon père, François Perrier, à qui je dois tout, et Daniel Philippaki, qui m'a carrément adopté quand j'avais 16 ans.
Ouais.
Donc, si vous voulez, être adopté par un type comme ça, c'est une chance unique.
Parce que vous avez fait une carrière, évidemment, de... Alors, vous avez des gens...
Grâce à lui, hein.
Les gens oubliés, mais vous avez tourné des films. Bon, ça, c'est évidemment... Et puis, vous avez eu parfois à vos bras quelques très belles femmes, et notamment Françoise Hardy, avec cette photo. Vous êtes pas mal non plus, hein, si vous me permettez, quand vous êtes jeune. Hein, vous êtes,
ah oui, j'étais bien, là. Vous êtes, bon, mais...
vous êtes plutôt mignon et plutôt beau garçon. Et y a une dernière photo que vous nous avez envoyée, c'est la photo de François Perrier. C'est la dernière fois que vous l'avez prise... que vous l'avez pris en photo, François Perrier.
Oui.
Voilà, c'est cette photo-là.
Oui, parce que
elle est très émouvante, cette photo. Je la passe parce que vous nous l'avez montrée. Hein. Vous nous l'avez donnée.
Ah non, mais absolument. Parce que
Là, c'est quelques jours peut-être avant son...
Oui, c'est le dernier vrai regard que j'ai échangé avec lui. On était en vacances et vraiment tout l'amour qu'il m'a donné toute sa vie, il est dans ses yeux-là.
Bon. Quel âge?
Il est mort donc il y a 20 ans, il était né en 1919, donc c'était en 2002, donc vous avez 83 ou 84 ans, mais c'est vrai qu'il avait perdu la mémoire les derniers...
Oui, c'était difficile.
J'imagine que c'était compliqué.
Il a été obligé d'arrêter le théâtre à cause de ça, si je me souviens bien, non? Parce qu'il...
Oui.
À cause de la mémoire. Ouais,
en tout cas, c'est un immense comédien, il y a une épaisseur. C'est Philippe Labrault qui utilise souvent ce mot d'épaisseur chez ses comédiens. On les voit beaucoup au cinéma aujourd'hui. Forcément, sur le théâtre, on a moins de choses. Mais même dans des seconds rôles, moi, je suis toujours frappé de... Alors, pour lui, ça devait le faire rire de faire ces rôles-là. Ça devait être même assez simple. Mais on les pose là.
Oui, mais pour lui, c'était d'abord le théâtre. Je disais, au cinéma, on a joué. Au théâtre, on joue. Voilà. Bon, ça change tout.
C'est pas mal dit.
Pardon ?
Non.
Cette phrase est magnifique. Au cinéma, magnifique. Au cinéma où on a joué, au théâtre où on joue, il y a un risque dans le théâtre. Nous... Ouais.
C'était sa vie. À chaque fois que je pense à lui, je suis extrêmement, extrêmement ému parce qu'au fond, il m'a tout donné. Sans lui, je ne suis rien, moi. Vous imaginez que ça a été le contraire, que j'ai été le fils de mon père élevé par l'autre. Ça ne serait pas la même vie, je peux vous dire.
Dans le très beau livre de Claude Berry, qui s'appelait Autofiction, c'est pas ce mot-là. Mais bref, il dit dans la vie, on est ou un père ou on est un fils, et on est rarement les deux. Et Claude Berry regrettait qu'il ne soit souvent qu'un fils, disait-il.
Oui.
Et c'est vrai que vous avez peut-être le même sentiment, mais cette histoire personnelle vous a convaincu de plus être un fils qu'un père.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, au fond, je crois que j'ai fait comme lui. Je suis pas sûr d'être vraiment un père, moi, mais je fais comme je peux, comme lui a fait. Bon, et je trouve que ça n'a pas de prix d'avoir rencontré quelqu'un comme ça. Vous vous rendez compte, la chance. Non, parce que franchement, je vous assure, si j'avais été élevé par l'autre, ce serait pas le même mec. Hein.
Autoportrait, c'est le livre de Claude Berry, non pas autofiction, autoportrait. Bon, il nous reste 2 minutes. Je voulais quand même qu'on écoute, avant de nous quitter, ce qui se passe dans le 18e arrondissement, parce que c'est pas rien. Le JT, mais il est 29, donc le JT, me dit Marine Lançoncel, qui décide. Audrey Berthaud.
Première divergence dans la majorité. Hier, François Bayrou s'est opposé à un référendum sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourtant, la proposition de loi est défendue par Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Le président du Modem s'interroge sur son utilité, d'autant plus que selon lui, aucun parti ne remet en cause la loi Veil.
Réservation obligatoire pour se baigner dans certaines calanques de Marseille cet été. L'accès aux plages de Sugiton et des Pierres sera limité à 400 personnes par jour. La réservation en ligne deviendra obligatoire à partir du 10 juillet et jusqu'au 21 août. Objectif, protéger les sites de la surfréquentation touristique. Et puis au Canada, c'est une découverte à la fois extraordinaire et historique qu'a fait par hasard un chercheur d'or. Il a trouvé le corps d'un bébé mammouth, plus précisément les restes momifiés d'un bébé mammouth pratiquement complet. L'animal serait mort il y a plus de 30 000 ans.
Anne Hidalgo était la principale cible d'une manifestation contre le fléau lié au crack. On en parlera beaucoup sur les antennes de CNews aujourd'hui. Les personnes rassemblées ont protesté entre autres contre le plan anti-crack d'Anne Hidalgo. C'est un drame absolu ce qui se passe dans le 18e. On en a parlé régulièrement. Rien n'est fait. La manifestation a réuni quelques centaines de personnes devant l'hôtel de ville. C'est insupportable en fait pour les gens qui vivent dans le 18e et ils ont le sentiment que rien n'est fait. Tout le monde s'en fiche. Pour mettre des vélos dans Paris, Madame Hidalgo est très fort. Mais pour enlever le crack, c'est plus compliqué. Vous pouvez se
non, parce hélas. Que la comparaison, je trouve un peu bizarre.
Mais vous avez totalement raison.
Sur le crack, c'est incroyable.
C'est incroyable qu'on n'arrive pas.
C'est un symbole de l'impuissance l'État, de la ville, etc. Ces questions qui
on déplace.
Et nous aurons.
À résoudre, c'est incroyable.
Et nous aurons une pensée.
Si c'est pas simple.
Pour Mademoiselle Adjani.
C'est son anniversaire.
Exactement. Isabelle Adjani, inoubliable dans tant de rôles, au cinéma comme au théâtre d'ailleurs. Donc, la voici Isabelle Adjani, qui sera à l'affiche d'ailleurs ces prochains jours dans...
D'Ozon.
Exactement, dans un film d'Ozon. Merci à Agathe Bourdeau qui était à la vision. Merci à Jean-Luc Lombard à la réalisation. Merci à Antoine qui était au son. Marine Lançon et Théo Grévin étaient avec nous. Dans un instant, Jean-Marc Morandini. Jean-Marie Perrier, vraiment merci à vous. On embrasse Anne-Marie.
Merci d'avoir évoqué mon père, vous êtes le seul. Hein.
Anne-Marie Perrier doit nous écouter. On l'embrasse, elle est réveillée. Sûr. Je ne pense pas que son mari soit réveillé à cette heure-là, bien évidemment. Généralement, il se réveille un peu plus tard. Et Jean-Marc Morandini dans une seconde.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.